Bienvenue sur la page Bible Espoir. Nous sommes heureux de vous y accueillir et nous vous souhaitons une bonne écoute.
Je vous propose que nous fassions une lecture dans l'Ancien Testament, s'il vous plaît. Et nous allons choisir un texte qui évoque un petit peu les différents caractères des croyants qui sont mis finalement là, eh bien, en exposition, si je peux me permettre, dans une situation particulière. C'est dans 2 Chroniques, chapitre 18, versets 28 et 34. Alors il y a à méditer parce que justement dans ces personnages qui vont défiler, eh bien là devant nous ce matin, il y a différentes réactions, différents positionnements, réactions de foi, réactions d'incrédulité. Et c'est peut-être un peu le reflet de ce que peut être notre humanité et parfois dans ce qui peut être aussi des réactions dans l'Église. Alors, vous l'avez lu ce texte, il est quand même assez original. Parce que il nous parle d'une flèche et il nous parle d'une cible. C'est comme ça d'ailleurs que j'ai titré mon message. Alors vous allez le découvrir. Ça vous dit quelque chose? Est-ce que, sans regarder le texte, hein, est-ce que ça vous dit quelque chose? Est-ce qu'il y a un, ça vous rappelle cette histoire de flèche? Non. Oui, il y a Élisée, mais qui part au hasard. Alors écoutez, je vais pas vous, on va pas rentrer dans un débat. Vous allez comprendre tout de suite. Hein. Alors. Donc, 2 Chroniques, chapitre 18, verset 28. Écoutez bien. Le roi d'Israël et Josaphat, roi de Juda, montèrent à Ramoth en Galade. Le roi d'Israël dit à Josaphat, « Je veux me déguiser pour aller au combat, à la guerre. Mets-toi, revêt-toi de tes habits. » Et le roi d'Israël se déguisa. Et ils allèrent au combat. Le roi de Syrie avait donné cet ordre au chef de ses chars, « Vous n'attaquerez ni petit ni grand, mais vous attaquerez seulement le roi d'Israël. » Quand les chefs des chars aperçurent Josaphat, ils dirent, « C'est le roi d'Israël !» Et ils l'entourèrent pour l'attaquer, Josaphat poussa un cri et l'Éternel le secourut et Dieu les écarta de lui. Les chefs des chars, voyant que ce n'était pas le roi d'Israël, s'éloignèrent de lui. Alors un homme tira de son arc au hasard et frappa le roi d'Israël au défaut de la cuirasse. Le roi dit à celui qui dirigeait son char, « Tourne et fais-moi sortir du champ de bataille, car je suis blessé. » Le combat devint acharné ce jour-là. Le roi d'Israël fut retenu dans son char en face des Syriens jusqu'au soir et il mourut vers le coucher du soleil. Ça vous rappelle quelque chose? Ouais, hein? Parce que vous lisez votre Bible. Et c'est vrai que c'est très intéressant de prendre en considération ces textes qui quand même souvent sont enfouis dans... Eh bien, la profusion de chapitres, de versets, de livres. Et il y a une leçon qui est quand même très intéressante, parce que je voudrais particulièrement, et je vais faire un commentaire en disant quelques mots sur les pages d'avant, parce qu'il faut que vous compreniez bien pourquoi cet archer syrien, au cœur de la bataille, va tendre son arc et va faire partir une flèche sans savoir où elle va atteindre, où elle va aller. Alors, vous savez, et je voudrais le dire tout de suite, pour nous les chrétiens, il n'y a pas de hasard, hein. Il n'y a pas de coïncidence. Il y a une conduite de Dieu, point, c'est tout. Tout simplement. Et Dieu sait ce qu'il fait. Je relis simplement cette phrase. Alors un homme, un soldat syrien, tira de son arc une flèche, je paraphrase, au hasard, et il frappa le roi d'Israël, Akab, qui était déguisé. Et on va voir pourquoi il était déguisé. Et vous l'avez déjà compris. Il y a plusieurs personnages qui apparaissent dans notre lecture. Il y a ce grand Josaphat qui est le roi de Juda. Josaphat est un homme qui aime Dieu. Un homme qui a le souci du respect de la parole de Dieu. Roi de Juda. Vous savez qu'Israël a été séparé en deux. Il y a le royaume du Midi, donc capitale Jérusalem, dont le roi à ce moment-là est Josaphat, un homme qui aime Dieu. Et puis il y a le royaume d'Israël, royaume du Nord, dont la capitale est Samarie, et dont le roi s'appelle Akab. Et Akab, c'est un Israélite. Autant le premier, Josaphat, est un homme qui aime Dieu, autant le second, bien qu'il soit eh bien israélite, c'est un homme qui fait comme il veut. C'est un homme qui est pétri de toutes sortes de conceptions superstitieuses. Il a fait une grande erreur, il s'est marié avec une païenne qui s'appelle Jézabel et qui va rester dans l'histoire de la Bible jusqu'au dans le livre de l'Apocalypse et qui encore demeure aujourd'hui, hein. Une femme méchante, une femme idolâtre, une femme qui n'hésite pas à faire couler le sang et tout ça. Mais Akab, c'est un bon garçon, il est faible et il dit oui à tout. C'est un peu le Hérode. Vous savez que nous trouvons là du temps de Jean-Baptiste, hein, influencé par la femme, influencé par ses femmes, parce que bon, on comprend. Et puis, il y a un homme qui va apparaître, dont je vais lire l'histoire, il s'appelle Miché, fils de Jimla. Pour nous donner ses origines. C'est un prophète de Dieu. Il n'est plus que tout seul, oui, tout seul, dans le royaume du Nord, dans le royaume de Samarie, dans le royaume d'Israël, là où le roi qui règne, c'est Akab. Il n'est plus que tout seul. Et c'est un homme qui a cette particularité, c'est que il ne veut dire que ce que Dieu lui a dit de dire. Il ne fait pas de compromis. Encore moins des compromissions. Et quand il reçoit, parce qu'il est prophète, quand il reçoit la pensée de Dieu, eh bien, il reçoit toutes sortes de pressions pour édulcorer la parole de Dieu, en dire que la moitié, mi-vérité, mi-mensonge, qu'est-ce que ça donne? Mais il dit, moi, je dirai ce que Dieu m'a dit. Je dirai les mots que Dieu m'a dit, envers et contre tout. À tel point qu'il va risquer sa tête, on va le lire. Ah oui, parce qu'on ne rigole pas devant un roi, hein. C'est vrai, on ne plaisante pas. Le roi, il a tout pouvoir sur ces sujets. Si quelqu'un lui paie, il va le bénir, il va l'élever en condition. Mais si on lui plaît pas, c'est la prison et la mort. Donc c'est ça, hein, c'est les règles. Hein. Et nous voyons que, eh bien, Miché va prendre de gros risques. Il a risqué sa tête, et d'une manière assez étonnante, c'est la tête d'Akab qui va tomber. Oui, Akab a perdu la tête. Parce que vous savez pourquoi ? C'était un entêté. Alors on va parler un petit peu de tout ça. Et puis, il y a le roi de Syrie. Si ma mémoire est fidèle, il s'appelle Ben-Hadad. Voilà, un sanguinaire. Hein. Et puis il y a un autre personnage que nous allons découvrir. C'est Sédécias. Et lui, c'est le prince. C'est le chef des faux prophètes qui entourent Akab. Il est élevé en dignité parce que tout ce qu'il raconte, c'est des histoires. De la part de l'Éternel. L'Éternel m'a dit, l'Éternel m'a montré, l'Éternel fait ceci, l'Éternel va faire cela, etc. C'est un enjôleur, c'est un baratineur. Et il pense que ce qu'il dit, eh bien, ça vient de Dieu. Il s'illusionne lui-même. Mais par contre, il emmène tout le monde dans le mur. On touche la prophétie, là, ce matin. Hein. On a vraiment besoin d'être enseigné sur le don de prophétie. Sur les prophéties qui caractérisent aussi l'Église charismatique dans laquelle nous sommes. Et on ne fait pas n'importe quoi, on ne dit pas n'importe quoi. Ce n'est pas une affaire sentimentale, ce n'est pas une affaire affective, ce n'est pas des inspirations qui nous seraient venues comme ça. « Ah, cette nuit, j'ai rêvé ceci, j'ai rêvé cela. » Vous avez rêvé cette nuit? Je ne vous demanderai pas pourquoi et de quoi. Ça ne me regarde pas. Mais quand on rêve, et que finalement, le lendemain matin, quand on vient au culte en disant, eh bien, on est en train de traduire le rêve, méfions-nous, parce que la Bible, le livre des Proverbes, nous dit que, eh bien, finalement, les rêves viennent de la multitude de nos activités, de nos préoccupations. Attention. Je voudrais dire tout de suite, et je le reverrai à la fin, La leçon à retenir de cette lecture, de cette tragédie, parce que c'est quand même une tragédie, c'est que nous devons lutter, que nous avons à nous tenir en garde contre cette fâcheuse tendance que nous pouvons avoir les uns et les autres à ne tenir que comme inspirés ou pour inspirer que ceux qui nous louent, que ceux qui nous disent des choses agréables, que ceux qui nous passent la main dans le dos avec des prophéties naturellement et qui disent comme nous quelque part, qui nous disent que ce que nous avons besoin d'entendre. Et quand quelque part Dieu parle et que ça nous déplaît, on dit ils sont pas inspirés, ce n'est pas ça, ça vient pas de Dieu. Et de ceux qui parlent prophétiquement en fonction finalement et qui va dans le sens de nos préférences. Moi, j'aime bien entendre parce que il me dit toujours du bien. Il me dit toujours ce qui me plaît. Mais, avec Dieu, quelquefois, le Seigneur nous dit pas toujours ce qui nous plaît. Mais il ne nous dit pas toujours ce qui nous plaît et ce que nous aimons. Vous savez, pour une bonne raison, c'est parce qu'il nous aime. Et on ne raconte pas des histoires à des enfants, à ses enfants, pour leur faire plaisir. Alors, on va voir ça. Pour nous dire simplement que si nous avons un réel désir de progresser et de grandir dans notre vie spirituelle, nous devons être très attentifs, voire même reconnaissants, tout simplement envers ceux qui nous aident à nous faire entendre, même quand cela ne nous plaît pas. Et c'est l'histoire, en quelque sorte. D'être attentif. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et nous n'y prenons pas garde. Dixit, le livre de l'Ecclésiaste. Job. Bravo. C'est Job. Et même être reconnaissant, parce que quelquefois nous avons été repris dans notre vie. Moi, ça m'est arrivé. C'est vrai, quelquefois, frère, ancien ou pasteur, mais aujourd'hui, ou même des gens de l'extérieur, oui. Et de dire, eh bien, ils avaient raison, et c'est bien, parce que finalement, eh bien, ça m'a fait le plus grand bien. Heureusement, je suis pas allé dans la pensée qui était la mienne. Donc, il y a une question de perspicacité spirituelle dans tout cela. Et je crois que c'est une source de progrès si nous voulons faire que ce que nous voulons. Vous savez, nous vivons dans un monde aujourd'hui, à tous les niveaux, que ce soit en politique, que ce soit en économie, que ce soit dans le monde, culturel, que ce soit dans le monde religieux, voire même dans le monde spirituel, où les gens aiment bien entendre que ce qui leur plaît. Et l'enseignement des enfants, c'est souvent d'aller dans le sens de ce qui leur plaît. Mais quelle génération et quelle société nous allons avoir demain ? C'est grave, parce que nous n'allons pas voir les fruits tout de suite. Ils sont peut-être verts et chétifs aujourd'hui, mais demain ils vont devenir colossaux. Et peut-être que nous aurons à nous mordre les doigts. Alors, cela peut froisser notre amour propre, nous amener à des désillusions en disant « mais j'avais caressé ceci et cela ». Et puis finalement, bien ce n'est pas ça. Et voire même quand notre orgueil, voire même notre popularité n'y trouve pas son compte. Et c'est bien l'histoire que nous allons maintenant commenter. Il nous est dit dans notre texte « Josaphat eut en abondance » des richesses et de la gloire. Chapitre 18, verset 1er, d'accord ? Il eut en abondance richesse et gloire. Ce n'était pas sa richesse et sa gloire, c'est Dieu qui lui avait donné la richesse et la gloire. Un homme béni, pour des raisons tout à fait particulières, mais il y a quelque chose, il nous est simplement dit, il s'allia en mariage avec Akab. C'était deux Israélites, l'un Juda, l'autre Israël. Mais néanmoins, ils étaient divisés surtout sur une grande question qui était la question de Dieu. L'adoration de Dieu, le service de Dieu. L'un à Jérusalem, ville choisie par Dieu, l'autre à Samarie, qui était une ville de paganisme, naturellement. Mais il avait certainement oublié quelque chose, parce qu'on peut être un bon chrétien et oublier les choses que Dieu nous a dites. Dieu avait dit, tu ne feras pas d'alliance avec le monde qui est à côté de toi. C'était pas Akab qui était en cause. C'était que lui-même, Akab, avait épousé une païenne terrible, Jézabel, et Josaphat avait donné son fils, Joram, qui était le futur roi, eh bien, aux fils d'Akab et de Jézabel, et je peux vous dire que là, la contamination, eh bien, va donner, quelque part, une infraction à la loi de Dieu. Alors, on s'arrête là. Et puis, au bout de quelques années, voilà, ils ont fait le mariage, etc., et il devenait de plus en plus riche, notre Josaphat. Alors, il est descendu auprès d'Akab, certainement qu'Akab lui avait envoyé une invitation royale pour venir le rejoindre. Et à ce moment-là, Akab tua pour lui, pour le peuple qui était en grand nombre, eh bien des bœufs et des brebis. Josaphat ne voit pas le piège venir. Parce que quand Akab va le recevoir à Samarie, dans son palais royal, il va lui faire une fête, mais extraordinaire, pour lui, pour ses serviteurs qui vont, imaginez-vous, c'est une fête nationale, hein, c'est une réception à caractère national, et il va déployer à Akab tout ce qu'il peut faire pour essayer de séduire Josaphat. Et à un moment donné, une fois qu'ils ont bien festoyé ensemble, qu'ils ont bien fait la fête, ça durait certainement plusieurs jours, il va lui faire une proposition, il va lui dire... Il le sollicita de monter à Ramoth en Galade. Ramoth en Galade est une ville, est un territoire qui appartenait dans le temps à Akab. J'espère que c'est pas autant compliqué l'histoire, non? Mais vous connaissez la Bible, hein? Qui appartenait à Israël, mais qui avait été confisqué, qui était occupé, comme encore aujourd'hui, c'est toujours la même chose, occupé par le roi de Syrie. Et à un moment donné, Akab avait dû se dire, je vais faire des démarches pour récupérer ce territoire. Pour mon royaume. Et puis le roi de Syrie avait dit, pas question, tu ne l'auras jamais. Maintenant, j'ai mis la main dessus, tu ne l'auras pas. Et il s'était dit, il avait cogité ça, certainement. Il avait dit, bien maintenant, il me faut un allié. Je vais faire en sorte que je vais faire venir Josaphat, je vais le soigner, et à un moment donné, je vais lui faire la proposition qu'il se mette avec moi pour aller faire la guerre au roi de Syrie, à Ramoth en Galade. Tout simplement. Ça va, comme ça? Hein? C'est bien. Akab, roi d'Israël, dit à Josaphat, roi de Juda, parce qu'il faut bien faire la différence entre les uns et les autres, c'est pas toujours simple. Il va lui dire, veux-tu venir avec moi, donc, à ce lieu, Ramoth en Galade? Josaphat répondit, moi comme toi, et mon peuple comme ton peuple, nous irons l'attaquer avec toi. Ça, c'était la chose, qui est faite sans, en précipitation. Parce que, Josaphat, qui pourtant connaissait bien la volonté de Dieu, qui aimait Dieu, eh bien, s'est fait piéger là où il s'y attendait pas. Parce qu'il aurait dû lui dire non. Non. C'est difficile de dire non quelquefois, hein, à des gens qui vous ont fait des faveurs, qui vous ont passé la main dans le dos, qui vous ont emmené au restaurant, qui vous ont payé des vacances, en Nouvelle-Zélande, et puis, tant qu'à faire, on met le paquet, hein. Et puis, ceci et cela, etc., etc., et à un moment donné, ils vous demandent une faveur, et vous leur dites, non. Ouah, hola. C'est de l'espagnol, ça, hola. Nous irons l'attaquer avec toi. Il s'est fait, comment dit-on en français? En beau, magnifique. Puis Josaphat dit au roi d'Israël, parce qu'il a un doute quand même, il lui a promis d'aller avec lui à la guerre, et il a un doute. Et il lui dit au roi d'Israël, consulte maintenant la parole de l'Éternel. Écoutez, je voudrais vous dire, ne prenez jamais de décision grave avant d'avoir demandé à Dieu avant. Et non pas d'avoir fait la chose et de dire, Seigneur, qu'est-ce que t'en penses? C'est formidable, vous êtes d'accord. Eh oui, mais est-ce que c'est pas comme ça? Il y a des gens qui s'embarquent dans des histoires, que ce soit à caractère, je ne sais pas moi, économique, bon, c'est vrai, ça peut arriver, des engagements, hein, voire même dans des situations sentimentales, et qui demandent à Dieu, qu'est-ce que tu en penses? Ah oui, mais peut-être qu'il fallait demander avant. Vous savez que ça coûtait cher à Josué, ça? Vous connaissez l'histoire de la petite ville d'Haï? Ils se sont drôlement fait battre, hein. Puis dans bien d'autres cas comme ça. Hein. Je te prie, eh bien voilà, nous allons consulter l'Éternel. C'est un défaut. Hein. Le roi d'Israël assembla son peuple, je lis, hein, vous pouvez lire avec moi, assembla les prophètes au nombre de 400 et leur dit, irons-nous attaquer Ramoth en Galade ou dois-je y renoncer? Alors, 400 faux prophètes autour d'Akab. Dites donc, c'est pas mal, hein? C'est quelque chose, hein? 400 conseillers spirituels, on pourrait dire, mais des faux. Ça nous rappelle l'histoire également d'Élie sur le mont Carmel. Vous savez, ils étaient 450 là. Hein? Les pauvres, ils ont mal fini. Hein? Mais voilà. Alors, il a dit, d'accord, on va consulter l'Éternel. Mais on va consulter l'Éternel avec des gens qui ne connaissent pas Dieu. Des gens qui sont à moitié croyants, moitié païens, on pourrait dire aujourd'hui des demi-chrétiens, ça existe, hein. Des gens qui sont chrétiens mais qui ne sont pas convertis, qui ne se sont jamais repentis, qui n'ont jamais accepté. C'est un peu le contexte, hein. C'est le contexte du mélange, naturellement. Alors, il va poser la question, en toute justice, est-ce qu'on doit y aller? Est-ce qu'on doit renoncer? Et vous savez ce que les prophètes vont dire? Monte et Dieu livrera la ville entre tes mains, entre les mains du roi. Tous d'accord, ils avaient tous entendu la question, ils se sont tous mis d'accord en disant, on n'a pas intérêt de le décevoir, hein. Parce qu'autrement, hein, on va tous y passer. Vous rendez compte un peu cette histoire? C'est complètement faux, ça tient pas la route. Ils étaient tous de mèche, comme on dit, pour finalement eh bien ne pas contrarier Akab. Parce que Akab, c'était un violent, hein. Voilà, il pouvait être très gentil, parce qu'on l'a vu dans d'autres cas, qu'il pouvait être très gentil, mais il n'était pas très, très, très bien. Hein. Alors, tout le monde va dire, parmi les 400 faux prophètes, tu peux y aller, il n'y a pas de problème, tu vois, les Syriens. Hein, vous savez, ça nous rappelle un petit peu, à chaque fois que, quelquefois, notre pays est parti en guerre, hein, je pense malheureusement, c'est ça, hein. Voilà, en 1914, hein, en août 14, on a dit, oh, les Allemands, dans 15 jours, on sera revenu à Paris, hein. Et dites donc. Ça a duré 4 ans, hein. Et on a fait pratiquement la même chose en 1939. Et à chaque fois, et écoutez, je voudrais pas vous, mais on entend des bruits de guerre partout, hein. Et on se croit fort, on se croit sage, on se croit intelligent. Mais dites donc. Attention, hein. Ça, c'est la pensée des hommes. Hein. Alors, tu peux monter, tu peux y aller, il n'y a pas de problème, tu vas vaincre. Hein. Mais Josaphat lui dit à ce moment-là, parce que c'est un dialogue entre les deux, « N'y a-t-il ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions le consulter ?» Là, nous nous apercevons que Josaphat commence à être mal à l'intérieur de lui-même. Il se dit, bon, d'accord. Il commence à voir qu'il s'est fait piéger, qu'il s'est fait embarquer dans une histoire où il va avoir du mal à s'en sortir. Et dans la réflexion, à un moment donné, quand il voit les 400 qui sont unanimes, pas un seul élève la voix en disant « Mais attention, il peut y avoir des problèmes en cours de route. » Non. Tout le monde dit pareil, c'est l'unanimité. Vous savez, c'est terrible, hein. Quand un peuple est unanime pour dire la même chose et qu'il n'y a pas une opposition à un moment donné pour dire « Écoutez, qu'est-ce qui s'est passé au moment de la crucifixion de Jésus ?» Ceux qui l'avaient accueilli la veille étaient tous en train de crier « Crucifie, crucifie-le !» C'est grave, ça, hein. C'est quelque chose de dangereux, hein, naturellement. Alors, Josaphat va émettre, il est roi, il peut le dire, à son collègue, l'autre roi, mais est-ce qu'il n'y a pas ici, à Samarie, dans ton royaume, Akab, est-ce qu'il n'y en aurait pas un qui vivra encore? Parce que je crois qu'il les avait éliminés. Ou alors tous les prophètes qui étaient du nord sont passés maintenant dans le sud. Hein, ils étaient tous revenus se réfugier à Jérusalem, c'était surtout ça. Hein. Mais il n'en restait aucun, il n'en restait un. Le roi d'Israël répondit à Josaphat, « Eh oui, t'as raison. Il en reste encore un homme, par qui l'on pourrait, vous vous rendez compte, c'est au conditionnel, si on veut bien, par qui l'on pourrait consulter l'Éternel, mais écoutez la réponse, pleine d'amour et de tendresse, je le hais. » Vous savez ce que ça veut dire? Je le déteste. C'est un homme abject. C'est un homme qui me révulse. Voilà, je le hais. Pourquoi? Car il ne prophétise rien de bon, il ne prophétise jamais que le mal. Ah oui. Ah là, c'est vraiment le caillou dans la chaussure. Ça vous est jamais arrivé? C'est très agréable. Vous faites des kilomètres et des kilomètres comme ça, vous allez voir que c'est une belle promenade, hein, le caillou dans la chaussure. Et l'homme en question, c'est vraiment la bête noire du roi Akab. Et il le dit d'ailleurs, le roi. Jamais il me prophétise des choses intéressantes. Parce que il est toujours à me contrarier. Il est toujours à me dire le contraire de ce que je pense. Quand je dis blanc, il dit noir. Quand il dit noir, eh bien moi, je veux que ça soit blanc. C'est difficile. Et il dira son nom. C'est Michée, fils de Jimla. Alors, Michée, fils de Jimla, c'est le personnage du texte. Ouais. C'est un homme qui vit dans un terrain hostile, où il a devant les yeux une nation, la notion de Samarie, la nation, le royaume d'Akab, en pleine déconfiture, en plein désastre, en pleine déliquescence sur le plan politique, sur le plan social, sur le plan, et puis tout le reste, surtout spirituel. Et lui, il est resté dans son pays parce qu'il se dit, c'est mon pays. Et s'il y en a un qui doit rester, ça sera encore moi, au risque de ma vie. Et t'es courageux, hein. Vraiment très courageux, Michée. Et Josaphat dit que le roi parle, ne parle pas ainsi. Parce que il a une sensibilité, il a une conscience, Josaphat. Il dit, mais tu ne devrais pas dire des choses comme ça, parce que cet homme, même si tu ne l'aimes pas, c'est un serviteur de Dieu. C'est quelqu'un que Dieu a mis en place. S'il est là, c'est que Dieu le maintient ici. Il a peut-être quelque chose à dire. Ne parle pas ainsi, parce que tu parles contre un homme, mais c'est pas contre un homme que tu parles. Hein. C'est contre Dieu lui-même. Vous savez, quand on a perdu pied, comme Akab, quand on a perdu la vision des choses spirituelles, on ne sait plus tellement où on en est, hein. C'est ce que l'on voit malheureusement chez nos frères et nos sœurs qui ont perdu vraiment la communion avec le Seigneur. Ils ne font plus la différence entre le bien et le mal, entre ce qui est moral et ce qui est immoral, et ceci et cela, ce qui est juste et injuste. Pour eux, finalement, c'est comme ça. C'est comme ça. Alors, le roi d'Israël appela donc un serviteur, un eunuque, et lui dit « Fais venir de suite Michée, fils de Jimla ». Je voudrais quand même vous dire dans le commentaire que j'ai pu voir pour préparer la prédication, c'est qu'il était déjà en prison. Il était déjà en prison pour, parce que des gens qui gênent, vaut mieux qu'ils soient en prison que d'être dans la population, parce que il démonte tout le monde, hein. Ouais. Le roi d'Israël et Josaphat, roi de Juda, écoutez bien, c'est intéressant, vous verrez la suite. Étaient assis chacun sur son trône, revêtus de leurs habits royaux, et ils étaient assis sur la place de l'entrée de la porte de Samarie. C'est intéressant. Parce que dans le temps de l'Antiquité, la justice, les grandes cérémonies, les grandes affaires publiques, les grandes affaires du royaume ou royal se traitaient à la porte de la ville. Nous, maintenant, on a un hôtel de ville et puis on a des bâtiments pour ça. Mais voilà, c'était comme ça, c'était quelque chose de très honorifique. On était là à la porte de la ville et ils étaient chacun habillés avec leurs vêtements, etc. Ils étaient assis sur leur trône respectif. Je pense que il avait fait transporter le sien, Josaphat, parce qu'il venait de Jérusalem. Et ils étaient dans cette circonstance. Vous savez, ça, c'est un peu comme le procès de Paul. Dans le livre des Actes des Apôtres, il nous est dit que il y avait là le roi Agrippa, sa femme Drusille, il y avait tous les magistrats de Jérusalem, etc. Et tout ça pour faire condamner. Ils étaient assis sur leur trône. Voilà, pour faire condamner l'apôtre Paul. D'ailleurs, il a été condamné, hein. Il a été condamné à 4 ans de prison et en plus jugé à Rome. Alors, c'est pour vous dire que les hommes, ils aiment bien faire de l'effet. Hein, le trône, les habits royaux, etc., en disant c'est nous qui sommes la justice. C'est nous qui détenons la vérité. Et donc, nous avons le pouvoir. Et nous faisons avec ce pouvoir ce que nous voulons. Et Dieu, dans cette affaire, il n'est pas assis sur un trône. Non? Où il est Dieu dans cette affaire? Et puis voilà un personnage qui est le contraire de Michée. Il s'appelle tout simplement Sédécias, fils de Kaanna. Et il s'était fait des cornes de fer et dit « Ainsi parle l'Éternel ». Alors, ce personnage, on ne sait pas d'où il sort. Il n'est pas dans la généalogie, hein, d'abord. Il est là simplement cité comme étant un homme élevé en dignité par les faveurs du roi Akab. Il est, on pourrait dire, tout simplement le porte-parole ou le chef des faux prophètes du royaume de Samarie. Et on apprend aussi que quand on voulait vraiment marquer une vérité, comme Jésus l'emploiera, mais par des mots, en vérité, je vous le dis. Vous connaissez, hein? Ça, c'est une expression répétée pour nous dire ce que je vous dis, c'est la vérité. Et en Israël, dans les temps peut-être anciens, quand un prophète en honneur, un faux prophète, eh bien, voulait vraiment marquer qu'il était inspiré par Dieu, lui, il s'était fait des cornes de fer. La corne, c'est l'image de la force et de la puissance. Ça, c'est écrit dans la Bible. Hein. Et il a voulu donner la prophétie qui suit, en disant maintenant, je ne fais pas seulement le dire, mais je l'atteste avec ses cornes, et c'est ce qu'il dit d'ailleurs. Avec ses cornes, il s'adresse à son roi, tu frapperas les Syriens jusqu'à les détruire. Mais est-ce qu'on a besoin, excusez-moi, un mot moderne. Est-ce qu'on a besoin de tout ce cinéma, franchement, pour apporter une prophétie? Imaginez-vous, moi, un matin, j'apporte une prophétie, puis je vous apporte une paire de cornes de bœuf. Alors, si c'est des buffles, vous allez voir, hein. Non, mais c'est vrai. Alors, je voudrais vous dire ça, parce que ça paraît comique, hein, mais quelquefois, on entend des choses. Et vous savez, il faut être sage. Il faut être sage avec les choses de Dieu. Avec les vérités de Dieu, les enseignements de Dieu, c'est pas la peine d'en rajouter, hein. Pas la peine. Une prophétie, elle doit s'apporter finalement sous l'inspiration, avec des mots simples, avec le vocabulaire qui est le nôtre. Et c'est Dieu qui fera son œuvre. Et pas avec toutes sortes de choses. On a vu, il y en a qui ont apporté des prophéties avec des gesticulations, qui se roulent par terre, qui montent au plafond. Enfin bon, toutes sortes de choses. Mais là, vous êtes sûr que vous discréditez à la fois la prophétie, vous discréditez l'Église, vous vous discréditez vous-même et vous discréditez le Seigneur. C'est pas la peine de faire toutes ces choses. Des cornes de fer, imaginez-vous. Les gens comprennent ou comprennent pas. C'est pas ce que mon frère ou ma sœur prophétique qui va apporter une prophétie. C'est pas ce qu'il va me dire. Il va me dire, je le comprends, il va parler dans ma langue, hein, naturellement. Mais il n'a pas la peine de faire toutes sortes de choses pour amplifier. On a compris? Pas la peine. Alors, tu frapperas les Syriens, tu les détruiras. Et puis, vous l'avez entendu tout à l'heure, tous les prophètes avec lui prophétisèrent d'eux-mêmes en disant, monte à Galad, à Ramoth en Galad, tu auras du succès et l'Éternel te livrera le roi de la Syrie entre tes mains. Et voilà qu'il va y avoir un intervenant. Ils disent tous pareil, hein, donc ils étaient tous d'accord. Le messager qui était allé appeler Michée lui parla ainsi. Ils sont allés le voir, il est allé le chercher dans la prison, là où il était, et il lui dit, tu sais, Michée, je voudrais te dire quelque chose avant que tu ouvres la bouche. Ça, c'est une préparation, vous comprenez, hein, pour pas que ça aille, tu vas te présenter devant deux rois. Il va y avoir le peuple, les deux peuples qui vont être, alors surtout, fais pas une gaffe. Hein. Fais attention à ce que tu vas dire. Voici les prophètes, d'un commun accord, prophétisent du bien au roi. Hey, que ta parole soit donc comme la parole de chacun d'entre eux. Ah oui, c'est bien. Hein. Vous savez, là, il y a quand même une belle petite manipulation qui est en préparation. Hein. Ouais. Et c'est là où l'homme de Dieu va réagir. Et il va dire, mais attendez, hein, moi je suis pas là à votre service. Quoi qu'il en coûte à ma propre vie. Et nous pouvons dire que Jésus a eu le même comportement lorsqu'il est apparu dans les évangiles et qu'il n'a pas écouté les voix divergentes que les docteurs de la loi ou que les pharisiens, les sadducéens, merci pour votre aide, elle m'est précieuse et je vous fais du bien. Mais bon, toujours est-il qu'il n'a pas écouté toutes ces choses, hein. Il a dit, moi je dis, la parole vient de Dieu, hein, ma parole, ta parole est la vérité. Alors, ils ont essayé de le briefer, c'est ça, c'est ce que l'on dit aujourd'hui, hein, briefer. Tu dis bien comme les autres, hein, surtout. Hein. Alors, comme ta parole soit comme la parole de chacun, annonce le bien. Alors Michée va répondre, l'Éternel est vivant, j'annoncerai ce que me dira mon Dieu. Courageux, hein. Parce que lui, il était quand même peu Jean-Baptiste. Il commençait à avoir peut-être des sueurs froides parce que il connaissait pas Jean-Baptiste. Mais Jean-Baptiste connaissait ce qui est arrivé à Michée, je pense, dans l'histoire. Alors, lorsqu'il fut arrivé auprès du roi, le roi lui dit, « Michée, irons-nous attaquer Ramoth en Galad ou dois-je y renoncer ?» Hé, vous savez ce qu'il va faire, le prophète Michée ? Dans un premier temps, il va dire comme le roi, pour bien montrer tout ce qu'il peut y avoir d'insensé, tout ce qu'il peut y avoir de fou et de stupide. Il répondit comme si c'était avec désinvolture. Voyez un petit peu, hein, j'essaie d'animer la prédication. Bah, montez, vous aurez du succès. Et les Syriens seront livrés entre vos mains. Et comme il y a certainement un air un petit peu moqueur, un petit peu provocateur chez Michée, en disant, mais tu peux y aller, tu sais, il n'y a aucun problème pour toi. Tu vas revenir, tu vas être victorieux, tout ça. Le roi le sent, hein, et ça lui fait pas plaisir. Hein. Il va lui dire, mais combien de fois me faudra-t-il te faire jurer de ne me dire que la vérité au nom de l'Éternel? À Eh bien, il va l'avoir. Au nom de l'Éternel, la vérité au nom de Dieu. Un homme qui n'en voulait pas, un homme qui ne voulait pas écouter cette vérité, qui méprisait cette vérité, eh bien, il va l'entendre. Michée répondit, « Je vois tout Israël dispersé sur les montagnes, comme des brebis qui n'ont pas de berger. » Ça, c'est un coup. C'est un coup dans le nez de... Parce que ça voulait dire qu'il n'était même pas roi. Hein? Un peuple qui n'a pas de roi, ou un troupeau qui n'a pas de berger, ben c'est comme un peuple qui n'a pas de roi. Ça voulait dire, tu sais, tu passes pour être un roi, mais tu n'es pas un vrai roi. Et l'Éternel dit, parce qu'après il va dire vraiment, « Ces gens n'ont point de maître, que chacun retourne en paix dans sa maison. » Voilà. Et ça, ça n'a pas fait plaisir. Le roi d'Israël dit à Josaphat, il se retourne vers son collègue, le roi d'en bas, le roi du Midi, « Ah, tu vois, ne te l'ai-je pas dit, il ne prophétise sur moi rien de bon, il ne prophétise que du mal. » Et pourtant, il a prophétisé la vérité. Ah oui, mais ça, c'est une excuse. Tu vois, regarde. Tu vois, toi, Josaphat, on ne peut pas lui laisser la bouche ouverte, parce qu'à chaque fois qu'il l'ouvre, il casse tout. Parce que ça mettait tout son projet, certainement, depuis des semaines et des mois qu'il avait conçu d'aller à Ramoth en Galade, de prendre la ville et de la ramener dans son territoire. Et là, tout est tombé. Hein. Et Michée dit, et là, il va parler. Michée parle, écoutez donc la parole de l'Éternel. C'est pas la sienne, mais il est simplement le porte-parole. « J'ai vu l'Éternel, dira-t-il, assis sur son trône. » Ah oui, ils sont frais, ces deux rois, assis sur leur trône. Mais ce sont des trônes humains. Ce sont des trônes de conspiration, en quelque sorte, contre Dieu. Et Josaphat, malgré que ce soit un bon roi, un roi qui soit un croyant, un véritable israélite, il est en train de jouer le jeu malgré lui. C'est pour ça qu'il a quelques remords. Alors, j'ai vu l'Éternel assis sur ton trône et toute l'armée des cieux se tenant à sa droite et à sa gauche. Ça voulait dire, mais vous allez y aller avec des soldats. Vous allez avec vos chars, avec vos armes. Mais moi, je vous dis, moi, celui pour lequel et par lequel je parle, lui, il a une armée. L'armée, c'est l'armée des anges. C'est l'armée puissante du ciel. C'est l'armée de l'Éternel. Quelle différence! Qu'est-ce qu'un homme peut faire avec ça? Il ne peut pas rien faire. Et l'Éternel dit, il ajoute, et là, c'est une partie mystérieuse de notre récit, quelquefois qui nous trouve, et je vais essayer de l'expliquer assez simplement. Dieu dit, mais qui séduira Achab, roi d'Israël, pour qu'il monte à Ramoth en Galade et qu'il périsse. Voilà, c'est Dieu qui dit ça. Ça nous rappelle un petit peu cette concertation entre Satan et Dieu dans le premier et le deuxième chapitre du livre de Job. Connaissez ? C'est un enjeu, c'est un défi, c'est quelque chose à haut niveau entre le ciel et la terre. Mais vous savez, quand Dieu prend ce genre de défi, comme avec Job, je ne parle pas d'Achab, parce que c'est le contraire, mais c'est parce que finalement, Job était un homme de foi qui allait aller jusqu'au bout sans renier son Dieu. C'est pour ça que Dieu l'a permis. On pourrait dire que c'est la volonté permissive. Et quelquefois, quand il nous arrive à passer des épreuves, quand nous passons parfois au rouleau compresseur, quand nous avons des choses terribles dans notre vie, mais si nous les passons, c'est que nous sommes capables de les passer. Et c'est Dieu qui nous en sortira. Et on en sortira encore plus fort et plus grand à sa gloire. C'est ça la question. Donc Dieu ne prend pas de risque avec nous, il sait. Il sait que nous l'aimons. C'est le sacrifice d'Abraham sur le mont Morija avec son fils. Arrête. Ne baisse pas le couteau sur le corps de ton fils. Je sais que tu m'aimes maintenant. Quelle épreuve, hein. On ne voudrait pas y passer. Hein. Alors, dans cette concertation spirituelle, il y a eu dans les lieux célestes, l'un disait d'une manière, l'autre d'une autre, et voilà qu'un esprit nous est dit, un esprit vint se présenter devant l'Éternel et dit, moi je le séduirai à Achab. L'Éternel lui dit, mais comment? Et voilà, je sortirai, répondit-il, et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. C'est curieux, hein? C'est troublant cette histoire, comment se fait-il? C'est une permission de Dieu. Parce que Dieu est le Dieu de la justice, il est le Dieu de la vérité, il est le Dieu du droit absolu, total, infini, et il est le Dieu de la sainteté. Et il n'y a aucun mal dans la personne de Dieu. Ses yeux sont trop purs pour voir le mal, nous dit le livre d'Habacuc. Et pourtant les choses sont faites ainsi. Pourquoi ? Parce qu'Achab, qui est un fils d'Israël, mais un impie, un méchant, quelqu'un qui est là tortueux, tortueux, eh bien, Il faut que les choses maintenant arrivent à son terme. J'ai pas lu, hein, mais vous pourrez le relire et peut-être qu'on y reviendra prochainement. Vous connaissez l'histoire de Nadab, l'histoire d'Akab avec la vigne de Naboth. C'est la suite, hein. C'est la suite. Parce que Akab, en faisant ce qu'il a fait, il s'est prononcé un jugement sur lui-même. Une condamnation sur sa vie. Mais on en parlera une autre fois. Alors je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. L'Éternel dit, tu le séduiras et tu en viendras à bout. Sors et fais maintenant. Donc, là, ça fait partie d'un domaine qui est invisible pour nous, mais néanmoins, les choses, on va les voir. Et maintenant, voici, l'Éternel a mis un esprit de mensonge dans sa bouche, dira maintenant, eh bien, Miché, dans la bouche de tous tes prophètes qui sont là. Eh oui. C'est terrible, hein, de savoir. C'est pas la règle de la prophétie, hein, qui nous est donnée, la règle de principe de prophétie. C'est son contraire, en quelque sorte. Et pour nous montrer qu'attention, hein, c'est quelque chose de très grave. Vous savez, nous vivons dans une société où nous sommes de plus en plus à être confrontés à voir les gens qui marchent d'une manière moutonnière dans bien des choses. Je ne veux pas dire quoi parce que je me retrouve en prison. Mais eh oui, c'est ce qu'on appelle le panurgisme. Vous savez, vous connaissez les moutons de panurge. Hein, voilà. Eh bien voilà, il y en a un qui fait, on va à droite, à gauche, etc. Les gens ne réfléchissent pas. Les gens ne prennent pas la mesure finalement. Ils ne sont pas responsables pour eux-mêmes. Une responsabilité profonde personnelle. Et c'est grave. Et c'est ce qui amène des catastrophes quelquefois qui n'ont pas de nom. Alors, ça sera un esprit de mensonge dans la bouche de tous ceux qui sont là. Mais la raison nous est donnée, et je voudrais quand même simplement dire très rapidement, il nous est dit, voilà, cette parole, Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamné, c'est terrible. Moi, ce que je voudrais vous dire, frères et sœurs, si vous êtes là, c'est qu'il y avait, vous avez de bonnes raisons. Moi, je vais vous dire parce que je voudrais pas que quelqu'un tremble. C'est terrible. Si vous êtes là, c'est parce que vous êtes des enfants de Dieu. D'accord? Vous avez répondu à l'appel du Seigneur et vous l'aimez. Vous avez des combats, des luttes, vous avez des tiraillements, mais qui n'en a pas? Justement, ces tiraillements, c'est parce que vous voulez maintenir. Vous voulez maintenir la vérité et votre amour pour le Seigneur et ça. Ça crache, hein? Parce que vous avez un ennemi qui veut votre tête. Il veut vous descendre. Il veut vous faire disparaître. Mais parce que vous tenez bon, vous êtes persévérant et vous continuez à aimer le Seigneur, eh bien, vous vivez ce que nous vivons tous. Finalement, à un moment donné, mais le Seigneur est là et le Seigneur est avec vous. Alors, n'ayez pas crainte, hein? Il n'y a pas d'Akab, hein, au milieu de nous. Hein. Et il n'y a pas de Jézabel. Non. Vous êtes des enfants de Dieu et vous pouvez vous rassurer dans le Seigneur et ce que vous entendez, ça doit vous dire, eh bien Seigneur, je me rapproche encore beaucoup plus de toi, encore plus près de toi Seigneur, parce que dans le monde moral, dans le monde spirituel, le monde invisible, mais que de défis, que de choses terribles. Alors plus je suis près de toi, plus je suis en sécurité. Hein. Rapprochez-vous très fort du Seigneur hein, et prenez sa parole, nourrissez-vous de sa parole, ça c'est essentiel. Alors, bon le texte... Comme les choses n'ont pas été jusqu'au bout, le roi était très mécontent, Akab était très mécontent, il est venu faire chercher quelqu'un, il lui a dit maintenant tu le renvoies d'où il vient et d'où il venait, prenez Miché, emmenez-le donc vers tel et un tel, et vous direz ainsi par le roi, Akab, lui c'est lui qui a le pouvoir, mais qui n'a aucun pouvoir, mettez cet homme en prison et nourrissez-le du pain et de l'eau d'affliction. C'est-à-dire que quand j'ai regardé un peu le commentaire, je me suis aperçu que le pain et l'eau d'affliction, c'était véritablement la condition d'un prisonnier la plus terrible qui soit, juste à la limite de mourir. On lui donnait suffisamment de pain et d'eau pour qu'il ne meure pas. Juste. Voilà. Et peut-être qu'il y avait des faibles qui pouvaient y passer. Et Miché va dire une dernière parole. Si tu reviens en paix, il va s'adresser au roi. Si tu reviens en paix, et vous avez remarqué, c'est le conditionnel. Si tu reviens, puisque Miché lui avait dit de par Dieu, tu ne reviendras pas. Si tu reviens en paix, l'Éternel n'a point parlé par moi. Et il dit encore à tout le peuple qui était là, parce qu'il fallait que tout le monde l'entende, c'était pas seulement le roi. Vous tous, peuple, entendez. Et bientôt, ça veut dire, entendez, et bientôt vous allez voir ce que vous allez voir. Dieu va agir. Et je termine par ce que nous avons lu. Le roi d'Israël et Josaphat, roi de Juda, montèrent à Ramoth en Galate. Ça les a pas arrêtés. Ça les a pas arrêtés du tout. Le roi d'Israël, Akab, dit à Josaphat, « Je veux me déguiser. » C'était pourtant pas carnaval. Mais il a voulu se déguiser, donc il a quand même eu peur. Il s'est dit, si c'était vrai. Ah oui, et je crois qu'il est quand même convaincu que c'est vrai. Alors, je vais aller à la guerre, je vais prendre dans les armes différentes, hein, fantassin ou autre chose, je vais prendre un costume qui me mettra en conformité avec tous les autres, personne ne me verra, tout simplement, et puis je serai quand même le roi et je serai quand même à la guerre, je vais me déguiser pour aller au combat. Et il va donner ce conseil, excusez-moi, mais pas très fraternel, et encore moins, parce que s'il veut faire assassiner l'autre, c'était le meilleur moyen. Mais toi, revêt tes habits royaux, tu penses que c'était véritablement l'envoyer à la mort. Hein. Et le roi d'Israël se déguisa, et ils allèrent au combat. Hein, ils sont partis. Je ne sais pas dans quel état ils sont partis, mais ils sont partis en tous les cas. Et voilà que le roi de Syrie, qui faisait face, avait donné cet ordre au chef de ses chars, vous n'attaquerez pas les soldats, ni les petits, ni les grands, ni les officiers, mais vous attaquerez seulement le roi d'Israël. Seulement lui. Essayez de le repérer, et alors à ce moment-là, vous allez faire le forting autour de son char, et puis vous le liquidez. Quand les chefs des chars aperçurent Josaphat, bien sûr, il est habillé en tant que roi, ils dirent, mais c'est le roi d'Israël. Et ils l'entourèrent pour l'attaquer, et à ce moment-là, Josaphat poussa un cri, et l'Éternel le secourut. Comme quoi, quand on est dans une mauvaise passe, même quand on a fait des erreurs, même lorsqu'on a mis les pieds où il fallait pas mettre, et qu'on a marché peut-être dans des compromis, dans des choses qui n'étaient pas à faire, eh bien, il a crié, lui, à l'Éternel, et l'Éternel l'a secouru. Qui ne pèche jamais parmi nous? Qui, dans cette semaine, n'a pas péché d'une manière ou d'une autre? Ben, vous savez, si Dieu n'était pas un Dieu de grâce et de miséricorde, on ne serait pas là ce matin. Ça, c'est sûr. Hein. Pour nous montrer qu'il nous est dit pourtant, Josaphat était un homme d'une grande intégrité spirituelle. Mais c'était un homme. David était un homme. Moïse a fait des bêtises, il était un homme. Et moi, j'aime bien cette phrase. Il poussa un cri, l'Éternel le secourut, et Dieu les écarta de lui. Dieu est capable d'écarter nos ennemis de notre vie. Un temps, ils font le forcing. Un temps, ils nous assiègent. Un temps, ils nous rendent profondément malheureux. Ils nous piétinent, ils nous écrasent. Que cet ennemi s'appelle la maladie, qu'il s'appelle un cancer, qu'il s'appelle n'importe quoi, des situations économiques, professionnelles ou autre chose, des pressions morales, des pressions spirituelles, mais le Seigneur nous délivre. Les chefs des chars, voyant que ce n'était pas le roi d'Israël, s'éloignèrent de lui. Et voilà notre phrase. Alors un homme, un soldat syrien, tira de son arc, j'ajoute une flèche, parce que ça pouvait être que ça, au hasard, et frappa le roi d'Israël au défaut de la cuirasse, ici. Parce que les cuirasses, elles n'étaient pas d'une seule pièce, elles étaient mobiles. Et il y avait là un pectoral, il devait y avoir certainement eh bien, une protection du ventre, et entre les joues. Et là, la flèche a touché ici. Alors ça aurait pu être une blessure soignable, comprenez? Ah oui. Parce que je pense qu'il devait y avoir des médecins, certainement, qui suivaient les années. Mais enfin bon, c'est pas la médecine d'aujourd'hui, naturellement, mais ça fait certainement. Mais il s'est passé une circonstance aggravante dans cela. C'est qu'il a été touché. Mais cet homme qui a tiré, la flèche est partie. Mais elle a touché sa cible. Et comment elle a touché sa cible? Le hasard. Un coup de vent. Elle était partie par là, c'est comme ça. C'est comme dans Les Visiteurs, vous connaissez l'histoire de la flèche là. Vous allez dire que je suis dissipé, je regarde des films. Mais il était bien, hein. Alors c'est un film d'une tristesse épouvantable. Enfin, en tous les cas, voilà. Le roi frappa Israël à défaut de la cuissard, de la cuirasse. Le roi, à ce moment-là, se voyant blessé, a dit à son cavalier, enfin celui qui dirigeait son char, « Tourne, fais-moi sortir du camp de la bataille, car je suis blessé. » Il savait qu'il était blessé, mais là, ça a dû commencer à faire réfléchir que ça tournait mal pour lui. Mais la circonstance aggravante, c'est que le combat devant acharné ce jour-là, et que le roi était retenu dans son char, il ne pouvait pas sortir, il était au cœur du combat. À droite, à gauche, il y avait des ennemis partout. Il aurait pu sortir, il aurait pu être sauvé. Mais les circonstances ont permis qu'il soit coincé dans tous les sens. Et que, résultat, jusqu'au soir, il a été retenu et il mourut au coucher du soleil. Et voilà, c'est une drôle d'histoire. C'est une triste histoire. Et je voudrais vous dire, Achab était un homme qui n'aimait pas la vérité. La vérité qui est partagée entre les hommes. Il préférait le mensonge. Mais même la vérité venant de Dieu, il ne l'aimait pas. Voilà. Et je pense que ce que Dieu veut faire de nous, c'est que nous soyons des hommes et des femmes qui aimons la vérité. Ouais. Comme David, après toutes ces facéties, le prophète Nathan est venu lui dire « Mais tu es cet homme-là. » Vous savez ce qu'il a dit ? « J'ai péché. » Et il s'est repenti. Ouais. Quand Pierre a croisé le regard de Jésus dans la maison du souverain sacrificateur, qu'est-ce qu'il a fait, Pierre ? Il a pleuré amèrement et des pleurs de repentance. Il s'en est tiré. Et à chaque fois que Dieu nous donne sa grâce, « Seigneur, donne-moi l'amour de la vérité. Donne-moi l'amour de ta parole. » C'est vrai. Et de ne pas simplement nous confronter avec des gens qui nous disent « Ah, c'est bien, c'est ceci, c'est cela, etc. Tu es le meilleur, tu es le plus beau, tu es le plus intelligent. Méfiez-vous donc. » Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous donne sa grâce. On va prier quelques instants. On va demander au Seigneur qu'il nous enseigne sa parole pour chacun d'entre nous. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons grâce pour ta bonté et ta fidélité. Merci pour cette histoire, parce que c'est une histoire de la Bible, et si elle est consignée dans la Bible, c'est qu'elle a raison d'y être. Elle a raison d'y être pour les générations d'hier, mais aussi, Seigneur, pour notre génération d'aujourd'hui, où nous vivons dans un monde d'une telle ambiguïté entre le mensonge, la vérité, entre ce qui est la lumière et les ténèbres. Seigneur, je te demande de visiter mes frères et mes sœurs, de leur faire du bien, Seigneur, de nous faire du bien à tous, Seigneur. Et nous voulons te demander, Seigneur, nous voulons te demander, s'il te plaît, et te le demander, Seigneur, d'une manière tellement répétitive peut-être, mais encore à nouveau, crée en moi un cœur pur et un esprit bien disposé, Seigneur.